franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les radios libres du mouvement à la réussite. En 1977, émettait la première radio libre dans la capitale.
18h, 18h.
Réflexion faite, 19h, 19h30.
Radio verte, radio de quartier, 89 MHz.
Vous écoutez Radio verte, première radio libre de la région parisienne.
Nous n'allons pas avoir dans toutes les villes françaises plusieurs radios, plusieurs télévisions. C'est impossible, ce serait d'ailleurs ruineux. Et il est déjà difficile d'obtenir une qualité d'information, de programme, avec des chaînes qui regroupent des moyens suffisants. Qu'est-ce que ça serait si nous avions plusieurs centaines de télévisions ou de radios en France?
Et oui, avant l'élection présidentielle de 81, Valéry Giscard d'Estaing, en dépit des remarques et des expériences de certains de ses amis libéraux, s'était arc-bouté sur la protection du monopole des ondes. Le candidat Mitterrand, lui, tard rallié à la cause des radios libristes, était resté volontairement, comment dire, dans le clair-obscur. Et le soir du 10 mai, le grand historien de gauche, Jean-Pierre Vernant, disait « Ce ne sont peut-être pas nos idées qui ont vaincu, mais ce sont nos débats. Le devenir des radios libres jusqu'en 1984 sera une excellente illustration de ce propos, puisque les radios libristes vont s'engouffrer dans l'aspiration provoquée par le changement de majorité. En peu de temps, leur mouvement va cesser dans les trains, encore un peu de temps, et les radios libres deviendront pour beaucoup d'entre elles des radios privées. » Inscrite dans le paysage capitalistique culturel. Les archives extraordinaires qu'on va entendre au fil de cette marche de l'histoire, collectionnées par Joël Girard, viennent de ses travaux. Thierry Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Après ce long préambule, tiens, je peux dire qu'en 1984, vous étiez un jeune radiolibriste.
Oui, jeune, effectivement.
Et que vous êtes un toujours jeune historien des radios libres. Vous avez publié un livre sur le sujet en 2008 qui s'arrête au moment où le mouvement va cesser dans les trains en 81-82. Quel est le paysage en 1981 avant la présidentielle ?
Alors, c'est très simple. Il y a un monopole de la radiodiffusion. Donc, il y a Radio France, que vous connaissez bien, qui dispose donc d'émetteurs sur le territoire. À côté de ce monopole, il y a des radios qui se sont installées à l'extérieur du territoire français, qui sont des radios dites périphériques. On connaît évidemment RTL, Europe 1, RMC, qui émettent, qui sont des radios commerciales, alors que Radio France, évidemment, n'a pas de vocation commerciale à ce moment-là.
RMC émet d'ailleurs un peu du territoire français, pas vraiment de la
principauté. Oui, oui, oui.
Bon, enfin,
oui,
passons.
On rentre pas dans les détails, parce qu'il y avait effectivement des points assez douteux. Donc, il n'y a finalement sur le territoire, il y a Radio Andorre, des radios comme celle-là également. Et à côté, il y a les radios libres, qui sont des radios qui émettent sur le territoire français, en dehors du cadre du monopole.
Le mouvement est très puissant dans les régions, peut-être autant qu'à Paris. Et il a commencé à Lille avant de commencer à Paris. Le mouvement vient de loin.
Oui,
le transistor, du rock.
Voilà, voilà. On peut essayer de faire des filiations. Il y a effectivement cet attrait d'une jeunesse pour la musique rock qui était très peu diffusée sur les ondes, aussi bien périphériques que sur les radios publiques. Il y a évidemment le mouvement des radios pirates anglaises qui vont avoir un impact certain sur la jeunesse, qui vont être imitées par de nombreuses radios libres qui auront des vocations distractives, musicales, etc., etc. Donc on peut suivre effectivement un peu cette généalogie. Il y a mai 68, bien entendu.
Et des radios de lutte qui disent qu'avec des moyens pauvres, on peut faire lever la patte.
Voilà, tout à fait. Donc cette idée naît autour de 1968.
Alors en 1977, la première radio à Paris, elles sont quelques-unes seulement, encore un peu balbutiantes, bridées dans leur développement avant l'élection présidentielle, animée par des bénévoles, des militants, qui doivent apprendre à faire des émissions, mais aussi à se procurer les émetteurs, à trouver des lieux d'émission en hauteur. Issu de la collection de Joël Girard, voici le récit par un animateur de sa quête de la clé qui lui permettrait de couper l'émetteur.
Gilles, temps, Dana et moi, on se barre. Viens fermer, s'il te plaît, la radio et couper l'émetteur. Gilles de Banville, oui, Gilles de Banville est prié de se présenter au studio afin de fermer la porte d'entrée dont je ne possède pas encore le double des clés et de couper l'émetteur car je ne sais pas où on le coupe. Ou alors je vais essayer de le faire moi-même avec mes ciseaux et mon marteau. Donc Nicole, Gilles, les portes de la nuit, n'importe qui, si vous entendez, venez, venez, venez.
Ils ont tellement de choses à faire, animer les émissions. Essayer de se protéger des brouillages. Parce que la loi a été renforcée en 78
tout à fait.
Par Giscard Barre, voilà, le ministre de la formation de l'époque, Jean-Philippe Leca, qui vient de disparaître. Mmh. Et la loi, elle est dure.
Elle est très dure parce qu'on peut saisir déjà les radios. C'est quand même assez rude, surtout que ces gens-là n'ont pas beaucoup de sous en général. Donc une saisie de matériel émetteur, table de mixage brise rapidement un élan. On peut brouiller ces radios. On utilise donc des émetteurs sur la même fréquence plus puissants qui font qu'on n'entend rien. Donc c'est quand même assez embêtant pour des gens qui veulent faire passer un message, d'être dans des situations où on ne les entend pas. Et on peut faire également des poursuites judiciaires, traîner devant les tribunaux les associations ou les collectifs qui sont à l'origine de ces radios libres. Et ça sera le cas pour un certain nombre.
Mais ne parlons pas des procès, des amendes. Décrivez-nous plutôt le jeu de cache-cache entre les techniciens de TDF, qui est l'institution qui a la charge du contrôle du monopole, et les techniciens des radios libres. C'est chat et souris.
Voilà, c'est ça. C'est TDF à cette époque-là qui brouille en pratique les radios libres et vont se créer au fil du temps des sortes de petites connivences entre certains techniciens qui sont souvent syndicalisés. En particulier CFDT, sur CFDT, et les radiolibristes, comme on les appelle. Et à la suite de ces connivences, eh bien, il va y avoir un certain nombre de phénomènes, même des radios de syndicats au sein même de la maison de la radio, par exemple, mais également des radios de syndicats à Longwy.
Non, mais vous faites bien de parler de la complicité qui s'établit entre des techniciens de Radio France, ici ceux de FIP, et des techniciens libristes, ici ceux de Radio Ivre.
Oui, bonjour. C'est FIP l'appareil ?
Oui.
Oui, bonjour. Ici, c'est vos collègues de Radio Ivre qui voudraient vous raconter... De Radio Ivre, qui voudraient vous parler d'un petit problème technique.
Ah bon ?
Nous avons émis cette nuit sur votre fréquence, et puis nous avons été brouillés vers minuit.
Oui.
Et le brouilleur, il a laissé son brouillage sur la fréquence de FIP. Ce qui fait qu'il est maintenant 7h07, et FIP est brouillé par TDF.
Vous restez en ligne, je vais écouter sur mon retour.
Écoutez, sur votre retour, vous le couvrez quand même, hein. Mais vous êtes en latéral, vous êtes brouillé en latéral par un brouilleur de TDF, exactement sur 94.
Parce que, sur un retour que j'ai là à la maison de la radio, je constate strictement rien. Hein.
Sur toute une zone de Paris, vous êtes certainement brouillé actuellement par TDF.
C'est quelle zone là ?
Je pense que sur Paris Sud, je pense que dans certains endroits de Paris, vous êtes certainement brouillé.
C'est marrant.
Bah oui. Voilà, bah écoutez, bonne continuation, chers collègues.
Et bonne journée.
Merci, au revoir.
Enregistrement volé en mars 81 et conservé dans le trésor Eldoradio de Joël Girard. Alors, Radio Ivre a des techniciens professionnalisés, c'est la même chose à Génération 2000, à Ici et Maintenant, ou bien à Radio Paris 80.
Alors, venez nombreux dans le studio mercredi prochain à minuit, c'est au 163 rue du Chevaleret, Radio Paris 80. Bonsoir.
Radio, Paris 80.
Oui, avant la présidentielle, il y a les pépinières de professionnels.
Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de radios dans lesquelles vont débuter un certain nombre de futurs professionnels. Là, on vient d'entendre Radio Paris 80, qui est installé dans une sorte de collectif écolo qui s'appelait Écouvie, où se trouvait également la gueule ouverte à cette époque-là. Et au sein de cette radio, il y a en particulier une des premières émissions d'information en continu qui est expérimentée, qui deviendra ultérieurement Radio Gilda. Et Radio Gilda, c'est Patrick Filiou, le fils du futur ministre de la Communication, Georges Filiou.
Alors Antoine Lefébure, avec sa bande, sont les pionniers de l'époque de Radio Verte 77. Il a une association qui s'appelle l'ALO, il est plutôt pour la professionnalisation à ce moment-là, mais d'autres continuent à défendre l'idée du moyen pauvre que je citais tout à l'heure.
Oui, oui. Alors, il y a effectivement deux tendances au sein du mouvement des radios libres. Il y a l'ALO, l'Association pour la Libération des Ondes, donc Antoine Lefébure et quelques autres, Patrick Van Troyen, qu'on vient d'écouter de Radio Ivre, qui milite pour une radio avec des moyens pour se permettre de faire des émissions de qualité. Et pour avoir des moyens, il faut évidemment un minimum de publicité, de rentrée d'argent. De l'autre côté, vous avez les militants purs et durs qui sont opposés par principe à la publicité et donc qui militent pour effectivement le moyen pauvre et militeront après 81 pour des aides publiques de collectivités locales pour faire fonctionner leur radio.
Le mouvement n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a connu beaucoup de méandres, de coups d'arrêt, ne serait-ce qu'à cause de la législation qu'on citait de 1978. Et puis, il y a des affluents, des divisions un peu inattendues. Il y a un courant libéral, par exemple, à Montpellier.
Oui, alors l'une des premières radios libres, c'est Radio Fil Bleu, à Montpellier, donc créée donc, en juillet 77 par deux avocats libéraux, proches de la tendance Madelin, voilà, qui veulent faire sauter le monopole sous prétexte de libéralisme, c'est-à-dire qu'on doit ouvrir les ondes à des activités commerciales. Donc François Chassin en particulier sera un militant très actif et très efficace de la lutte contre le monopole.
Alors à gauche, il y a le Matin de Paris et le Nouvel Observateur de Perdriel qui sont radiolibristes, mais à droite, il y a le Quotidien de Paris, Philippe Tesson.
Tout à fait. Voilà,
mais à droite, le président sortant, lui, n'en démord pas.
Non, il n'en démord pas pour des raisons qui sont les siennes. Donc lui veut conserver le monopole, estime que si on libère les ondes, on va tomber dans le syndrome de l'anarchie à l'italienne. Ce qu'on voit depuis 1975 en Italie, c'est-à-dire la multiplication de radios commerciales, de radios d'extrême gauche qui s'alimentent des événements assez lourds de cette époque. Et il ne veut pas ça pour la France. Donc
l'anarchie,
c'est vraiment...
dit le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet.
Voilà.
Et au RPR, où on n'est pas toujours très proche de Valéry Giscard d'Estaing, on défend le monopole aussi, le RPR,
oui,
de Jacques Chirac.
On défend le monopole avec une certaine conviction, mais on changera d'avis sitôt les élections.
Alors, les élections approche, quelle est la position des communistes?
Les communistes sont pour le monopole par principe. En revanche, ce qu'ils acceptent comme type de libération des ondes, ce sont des radios municipales. Évidemment liés à leur municipalité, entre autres, donc avec des financements provenant de municipalités. Donc ils développeront d'ailleurs un certain nombre de radios de ce type après mai 81.
Notamment dans la Seine-Saint-Denis. C'est quand même pas scandaleux de rapprocher le PC de la CGT de l'époque. La CGT a donné un coup de pouce très important au mouvement des radios libristes.
Oui, ce sont donc les radios de lutte de la CGT, radios syndicalistes, qui naissent en particulier donc dans le bassin lorrain au moment de la destruction programmée de la sidérurgie lorraine autour de Longwy. Donc ça va être Radio Lorraine Cœur d'Acier, Radio Quinquin et quelques autres qui vont naître. Et ce sont des radios également prud'homales, donc des radios qui émettent ponctuellement pendant une ou deux semaines à l'occasion des élections prud'homales pour faire valoir les thèses de la CGT. Donc on retrouve ces radios jusqu'avant les élections présidentielles.
Mais au PS, est-ce que cité Malesherbes, dans le siège annexe du PS, on n'a pas fait une émission une fois?
Oui, on a fait une émission, donc c'était en juin 1979, ça s'appelait Radio Riposte, une radio derrière laquelle on trouve des gens connus comme M. Quilès ou Fabius et quelques autres, et dans laquelle intervient, sous forme d'enregistrement, François Mitterrand, qui sera donc inculpé à la suite de cette émission. Il y aura une tentative de saisie de l'émetteur également.
Mais quand Robert Ménard.
oui, ça me rappelle quelqu'un. Donc Robert Ménard est...
Ancien militant de la Ligue communiste révolutionnaire. Et qui tient Radio Pomarède à Béziers, est à son tour inculpé. Mitterrand vient témoigner
à Béziers pour son procès, effectivement.
Bon, mais si on relit la 94e des 110 propositions de gouvernement, clair-obscur.
Hein. On ne sait pas trop ce que ça va devenir. Il y a cette idée que le monopole, il faut l'ouvrir quand même à un certain nombre de programmateurs, d'associations capables de programmer autre chose que ce qui est l'habitude sur les ondes publiques. Mais on n'a absolument pas tranché, en particulier la question de la publicité, le modèle, est-ce que ça sera des associations loi 1901 ou éventuellement des SARL. Tout ça n'est pas tranché en mai 81.
Ce ne sont peut-être pas nos idées, mais ce sont nos débats qui gagnent, dit Jean-Pierre Vernant à l'issue du scrutin du 10 mai 81. Alors le débat sur les radios libres va s'étendre et vous avez dit sur quel problème il achoppe, le statut, la puissance des émetteurs, combien de kilomètres de liberté autour de l'émetteur et puis la question du financement. Alors voici maintenant sur la question du financement, un panel de points de vue. Nous sommes dans la deuxième moitié de 1981.
Aujourd'hui, ils vont émettre chez un copain photographe. Ils occupent la fréquence de 95 MHz de 18h30 à 19h30. L'équipe, des bénévoles, tout à la fois techniciens et journalistes.
Comment vous financez vos émissions?
Eh bien, au départ, ces 20 personnes qui constituent le collectif de base ont un apport de 500 francs. Et il y a également des cotisations des associations du quartier et des individus qui soutiennent activement la radio.
Vous accepterez la publicité?
Nous l'accepterons dans une limite de 5 minutes par heure et uniquement de la publicité venant de commerçants locaux.
Planche à voile venant directement de Versailles Sport et si vous voulez l'adresse, la voici.
Versailles Sport, 30 avenue de Saint-Cloud, Versailles.
C'est par l'une de ces annonces publicitaires pour les commerçants locaux que RFM vient d'entrer dans le monde de la radio commerciale. Pour la plus importante radio libre, elle revendique 2 millions d'auditeurs, le recours à la publicité paraît en effet indispensable.
Quel pourrait être le moyen d'existence de telle radio? Ça ne pourrait être que le financement politique ou le financement de diverses associations dont les buts ne sont pas toujours clairement définis. Et je crois que s'il n'y avait pas accès à la publicité pour une radio comme RFM, eh bien je crois que ce serait ni plus ni moins que la mort de ce type de station.
La décision d'interdire la publicité, ça c'est bon, il y en a plein le cul, tout le temps écouter des émissions où t'es coupé tout le temps par de la publicité ou autre. Mais si ça fait gagner de l'argent à des radios libres, des gens qui investissent, autant qu'il y en ait un peu quoi.
Pour des radios indépendantes, il faut bien de l'argent pour vivre.
Ouais, bien sûr, alors donc il faut de la pub, mais pas comme RTL ou comme Europe 1, des grands trusts comme ça qui t'en foutent plein la vue, tu vois.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ça n'est pas une publicité pour un animateur, c'est juste une borne repère. Nous parlons du
mouvement d'être sur France Inter.
Des radios libres, comment ils s'institutionnalisent après l'élection présidentielle avec deux lois, l'une en novembre 81 et l'autre en juillet 1982. Il n'est pas question dans ces lois-là de donner un statut commercial.
Non. Non, non. Il y a un veto d'un certain nombre de militants socialistes et en particulier de Pierre Mauroy, qui est Premier ministre et qui refuse ce statut parce qu'il a peur que les radiofrics, comme ils les appellent, prennent le pouvoir, ce qui est une prémonition par ailleurs.
Une commission est chargée sous la présidence de M. Hollot, puis lui succédera la haute autorité de l'audiovisuel sous la présidence de Mme Cotta. Une commission, puis cette haute autorité, sont chargées d'attribuer les fréquences. Alors ça, c'est pas très compliqué en province.
Oui, non, non, parce qu'il y a un nombre relativement limité de radios.
Mais alors à Paris, 16, 17, 18 fréquences accordées par TDF au compte-gouttes, et puis la foire d'Empoigne. Alors comment, par exemple, satisfaire la droite? Alors, on donne une fréquence à Monsieur Chirac,
voilà, Tour
Eiffel,
voilà.
Il est maire de Paris. Comment satisfaire? Alors là, elle est beaucoup plus difficile à satisfaire, Madame d'Angevilliers, Radio Solidarité.
Le pouvoir veut nous cantonner, vous savez, comme les peaux rouges dans leurs réserves. La fréquence est immédiatement voisine de celle utilisée par les armées. Les risques d'interférence avec cette dernière seraient permanents et nous serions brouillés. Il s'agit donc bien d'un assassinat déguisé. Le gouvernement fait une ultime tentative pour assassiner Radio Solidarité. Ne les laissons pas faire. Nous pouvons y faire échec en exprimant clairement notre volonté de résistance. Nous avons besoin de vous, chers amis.
D'autres radios, elles, luttent avec leurs propres moyens. C'est ainsi que les animateurs de radio ici et maintenant font une grève de la faim depuis deux jours. Ceux de Lumière 101 menacent d'en faire de même. Hier, deux collaborateurs de Quai Service ont tenté d'escalader la tour Eiffel et 11 animateurs de Paris Férique se sont enchaînés à des grilles place de la Concorde.
Oui, alors effectivement, on est au moment de l'attribution des autorisations par la commission Hollot, qui deviendra commission Galabert, du nom de son successeur. Donc Bernadette d'Angevilliers, qu'on vient d'entendre, c'est un pseudonyme, et la patronne de Radio Solidarité. Radio Solidarité est une radio autorisée, mais simplement sur une fréquence qui ne lui convient pas. Fréquence qui se situe au-delà de 100 MHz et qui n'est pas sur tous les postes de réception FM. Donc elle refuse de se plier au diktat, comme elle dit, de la commission Holo, puis de la haute autorité de la communication du
ministère. C'est M. Stéphane Hessel qui s'occupe de ces questions à la haute autorité.
Des mariages entre radios.
On sait qu'il est capable de beaucoup de diplomatie et de mariages plus ou moins forcés entre radios qui se disputent des fréquences pas assez nombreuses.
Il y a les flics qui sont venus chez nous, là. On est en train de résister, ils ont envoyé du gaz lacrymogène, mais on est toujours là-dedans. Hein.
Est-ce qu'ils ont coupé l'antenne?
Je pense que on est enfermé là-dedans.
Et vous comptez pas sortir, vous comptez pas vous rendre?
Pas du tout.
Bon, vous n'avez plus d'émetteur, là, pour l'instant. Vous n'émettez plus, pour l'instant. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'antenne?
Oui, mais attendez, je vous lance, hein, parce que je suis en train de briser, là. Le gaz lacrymogène, attendez, je vous quitte, hein.
Et ne raccrochez pas, ne raccrochez pas.
Deuxième saisie en direct, ça fait beaucoup pour une seule matinée. En tout cas, si vous avez un appareil enregistreur, allez-y, c'est Radio Vodka.
Alors attendez, je ne comprends pas très bien, là nous sommes un an plus tard. C'est le diplomate monsieur Hessel, la haute autorité indépendante, Michel Cotta, il y a des saisies?
Oui, tout à fait. Il y a des saisies. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre limité, en fait, 22 fréquences sur Paris.
Parce que TDF, on l'a débloqué à mesure.
Oui, mais il aurait pu, TDF aurait pu en débloquer beaucoup plus, mais c'était limité à 22 fréquences. Et donc, il a fallu marier quelque chose comme... il y avait au total plus de 160 radios qui demandaient une fréquence. Donc, on en a marié le plus possible. Ça n'a pas marché la plupart du temps. Et puis, il y en a certaines qu'on a refusées. Mais et donc, ces radios vont être saisis.
Vous n'allez pas me dire qu'il y a eu des procès?
Il n'y a pas eu de procès en général, mais certaines radios qui agaçaient beaucoup ont eu des mauvaises surprises, en particulier Carbone 14, dont le patron Dominique Fenu sera poursuivi pendant quelques années.
Oui, parce qu'il y a les radios historiques à qui on fait une place, il y a les radios associatives minoritaires, il y a la radio de M. Chirac, et puis il y a de nouveaux venus... Alors, des perturbateurs comme 14, fin 81, début dans le 14e arrondissement de Paris. Alors, on cite les noms, Jean-Yves Lafesse,
David Grossex, et Super Nana en particulier, Robert Le Haineux également.
Oui, qui disait « Vive la guerre !» Oui.
Allô, tu nous appelles d'où?
Bon, là, moi, j'appelle de Paris, là, de convention, là, à peu près.
Ouais.
Et alors, bon, moi, c'est Stéphane, et
salut.
Puis j'ai une petite annonce à passer.
Vas-y, mon bichot, ouais.
Alors voilà, là, on est trois mecs,
ouais.
Et puis parmi nous trois, il y a un jeune puceau de Nice devant.
Ah bah, c'est lui qui doit prendre le micro, normalement. Allez, passe-nous, on va le dépucer.
Non, mais attends, d'abord, parce qu'il est il est un peu timide, il angoisse un peu, c'est normal, hein. On l'appelle courte bite, déjà, tu vois.
Ça, c'est pas un service.
Quand même.
C'est pas très gentil, ça.
Bah ouais, non, mais si tu veux, il recherche depuis longtemps une petite technicienne, tu vois, pour l'initier au plaisir de l'amour, alors...
Non, attends, passe-le-moi.
Bon, écoute, moi, je te le passe. Bon, allez, attends, il a un peu du mal à venir, quand même. Pour l'instant, il angoisse un peu. Non, tu vois, c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est moi qui ai pris le téléphone.
Je comprends bien pourquoi il a du mal à se faire dépuceler. Hein.
Ouais. Non, mais enfin, disons que je crois quand même que ça doit intéresser pas mal de jeunes filles, quand même, tu vois, qui fantasment un peu là-dessus, quand même. Un jeune puceau de 19 ans, c'est quand même assez intéressant.
Est-ce qu'il est mignon?
Il est très, très mignon, hein. Bon, en plus, on est trois, hein, alors en plus, on le soutient, tu vois, on va quand même pas le laisser tout seul.
Ok, hein. Bah laisse-nous le numéro de téléphone à l'antenne.
Voilà, le numéro, c'est le 250-68-19.
Salut.
Salut.
On a quelqu'un d'autre, là, tout de suite, alors on le passe, on se l'envoie immédiatement. Bonjour. Allô. Il y a quelqu'un, là. Allô. C'est pas possible. Est-ce que vous nous entendez? Attends, allô. Voilà, bon, on va raccrocher. Ils nous rappelleront de toute façon. Et puis, on va écouter un petit disque, Eric.
Voilà, on a reproduit le numéro de téléphone parce qu'au fond, c'est une archive. Hein. 19 février 82 et le puceau est devenu quinquagénaire. On est loin des radios féministes, genre Nana Radioteuse, du temps du moyen pauvre et de la radio libre mouvement.
On est très très loin là. On est dans l'émission La Fesse Merci, donc la première émission de Jean-Yves Lafesse. Il y avait une autre émission qui s'appelait Poubelle Night, donc de Super Nana. Et effectivement, on se lâchait dans ce genre d'émission.
Autrement puissant et durable, parmi les nouveaux venus, les prédateurs comme Énergie, qui naît en 81 dans une cuisine du 20e arrondissement. Il y a déjà Jean-Paul Baudecroux.
Mmh.
Ouais. Et
Et il y a Jean-Paul Baudecoup.
Il y a surtout un émetteur très puissant.
Il y a un émetteur très puissant. C'est vraiment, l'idée d'énergie, c'est un émetteur très puissant, un style musical qu'elle n'a pas quitté depuis ses origines. Et éviter l'affrontement frontal avec le pouvoir, contrairement à RFM, qui sera brouillée pendant un certain nombre de mois, justement parce qu'elle passe de la publicité. On a entendu
enfin, quand même, le président de Radio France de l'époque, Jean-Noël Jeannet, dit « J'entends tout le temps parler de la liberté des maîtres, j'aimerais entendre parler de la liberté d'entendre, parce qu'on n'entend plus culture, on n'entend plus musique, et la haute autorité décide de sévir et menace d'une suspension de 6 mois ou de 3 mois. C'est une menace virtuelle encore, parce qu'une manifestation se tient en décembre 84.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées en début d'après-midi à Paris, place du Châtelet, pour soutenir une radio privée parisienne, Énergie. Énergie vivra, c'était un des slogans repris par les manifestants, parmi lesquels on reconnaissait Dalida ou Gilbert Montagnier. Leslie Le Tac a interrogé un auditeur de cette radio privée qui manifestait donc aujourd'hui dans les rues de Paris.
Tant que nous ne défendrons pas la liberté, autrement dit tant que ce monopole n'aura pas disparu, quelconque ministre d'aujourd'hui, de demain ou d'avant-hier pourra toujours supprimer une fréquence, interdire une émission. Et à quoi sert la liberté de parole s'il n'y a pas de liberté de vous entendre? C'est ça le problème, et c'est pour ça que ça manifeste. Les gens ont soif de liberté. Le président Reagan, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, a supprimé le monopole sur les satellites de télévision. Autrement dit, il y aura des milliers de chaînes bientôt. Il n'y a que la France qui est un pays en retard dans la tête, en retard dans l'économie. C'est pour ça qu'il ne faut plus de monopole dans ce pays.
Voilà, le gouvernement Fabius cède. Il faut dire qu'il y a pas mal de dirigeants socialistes qui ne veulent pas faire de mal à la jeunesse. La haute autorité va désormais devoir transiger avec les illégaux de la FM, et puis s'occuper des nominations toujours libres, voilà, des présidents de la télévision.
Et puis régulariser, surtout en 86, autoriser les réseaux.
Alors dites-moi, le statut commercial en 84 est finalement possible pour les radios qui vont s'organiser pour beaucoup en réseau, ne subsiste sous le mode associatif qu'une minorité de radios. On m'a recommandé de ne pas oublier Radio Libertaire, c'est fait, c'est cité.
Ici maintenant aussi.
Vous voyez peut-être un rapport entre ces événements et l'affaire Skyrock. Pierre Bélanger a pris les mêmes méthodes que Énergie en 84 pour se maintenir à la tête de son groupe.
Pierre Bélanger, qui commence à émettre le 10 mai 81, date symbolique, va créer 3 radios successives, donc Radio Cité Future, La Voix du Lézard et Skyrock, et donc a bien compris comment on pouvait faire céder ses adversaires.
En disant en politique, s'attaquer à Skyrock, c'est s'attaquer à la jeunesse.
Help, arrêtez tout. Help. Help, my sex moves alone. Yes, hello. C'est de l'anglais, c'est dégueulasse. Ma bite bouge toute seule, c'est du temps. Il ne faut pas dire ça. Vous aurez qu'à l'enlever, ça de la radio, parce que c'est vous-même.
Sandrine Laurent, Philippe Duclos nous ont accompagnés. Camille Poux-Jalaguier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard, Frédéric Martin, l'équipe de la Marche de l'Histoire.